Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Les instants des Bartas.
Ce sont des interviews, des reportages ou des chroniques.
Les lundis et mercredis à 8h30.
Les mardis, jeudis et samedis à 17h.
Ou le vendredi à 11h.
Un créneau curieux de tout.
Qui parle de vous.
Du local et un peu d'autre chose.
Les instants des Bartas.
Sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous qui nous écoutez sur le 107 FM ou sur radiobartas.net. C'est Marianne au micro de cette émission aujourd'hui et je suis très contente de partager ce moment avec vous. Au programme de ces instants des Bartas, en première partie, on vous propose un reportage réalisé lors du Festival des Vues du Québec. Ce reportage a été réalisé par Lucie et par moi-même, les stagiaires de Radio Bartas. Et j'en profite pour saluer et remercier chaleureusement Lucie pour tous ses conseils et pour la prise de son, mais aussi Léo pour sa grande aide, notamment lors du montage, sans oublier Ben et Véro, bien sûr, qui ne sont pas loin, pour le moins en filigrane. J'en profite également pour vous signaler que Radio Bartas a recommencé à former les bénévoles. Il y a une formation technique, autrement dit comment fonctionne la radio et l'enregistrement des émissions, et une formation autour des interviews, c'est-à-dire de l'écriture d'une interview jusqu'à son montage. Les deux dernières formations ont été réalisées par Léo, et si vous aussi vous souhaitez participer à une formation, vous pouvez prendre contact avec la radio et envoyer un petit mail à contact@radiobartas.net. Ils seront ravis de vous accueillir, si, ils me l'ont dit. Allez, tout de suite, c'est parti pour le premier reportage. Lors du Festival des Vues du Québec qui s'est déroulé à Florac du mardi 8 au dimanche 13 avril 2025, notre curiosité a été piquée par la programmation d'une animation qui nous a semblé bien fun. Il s'agit, chères auditrices et auditeurs, d'une course de canots sur bitume. C'est une animation qui a été organisée par l'association La Nouvelle Dimension et elle se passe dans les rues de Florac. Nous sommes mercredi après-midi. Alors, le canot sur bitume, qu'est-ce que c'est encore que cette affaire? Nous croisons un participant qui se prépare pour la course et nous lui demandons quelques renseignements.
C'est la première fois que vous allez faire du canot sur bitume?
Exactement. Et on vient de recruter notre dernier membre d'équipage.
C'est combien de membres par équipe?
4.
Vous savez un petit peu ce qu'il va falloir faire ou pas?
Pas du tout. Mais il y a une personne qui a l'air un peu experte, et il n'est pas âgé mais plus vieux, qui m'a dit apparemment il faut avoir un pied dedans, un pied dehors.
Ah oui, d'accord, donc vous allez pédaler un pied dehors
Apparemment.
D'accord.
Apparemment.
Pourquoi vous êtes dévoué alors pour le faire?
Parce que si on peut faire de la course de canot dans une vie, il faut le faire. Voilà.
Nous avons quelques éléments à présent, mais pour en savoir davantage, nous demandons à l'organisatrice de l'événement de tout nous expliquer, à commencer par la genèse de cette surprenante idée.
Alors le canot sur bitume, ça a été une idée pour rebondir un peu sur le film d'ouverture. Le film d'ouverture hier, c'était La Fonte des Glaces et qui mettait un peu en scène le canot sur glace. Le canot sur glace, c'est un sport qui se pratique au Canada et au Québec. Et l'idée, c'est de faire du canot en hiver, mais sauf que ils étaient embêtés parce que en hiver, il y a forcément beaucoup de glace. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des crampons sur leurs chaussures et au moment où ils arrivent sur un endroit où il y a de la glace, ils passent un pied en dehors du canot et ils pédalent avec leurs pieds. Donc nous, on s'est dit qu'on n'avait pas de glace et ça allait être compliqué d'aller faire des obstacles sur l'eau. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait mettre des roulettes et on a construit les canots pour imiter un peu l'effet glace-eau. Donc c'est pour ça qu'ils sont très instables. On a mis une grosse roulette au milieu et des plus petites, donc comme ça c'est vraiment très instable. Donc ça fait un peu skate. Et voilà, du coup c'est venu de ça, on s'est dit que ça ferait une bonne animation pour rebondir et sur le film d'ouverture et aussi pour rebondir sur un sport qui est typique canadien, québécois.
Et combien d'équipes participent aujourd'hui à l'événement?
Alors là, il y a 6 équipes en tout. Ce qui fait qu'à chaque fois c'est des équipes de 4 et ce qu'il faut savoir c'est que ça va être des équipes de 4 qui vont se relayer. En fait, comme on sait que c'est dur et que le circuit est un peu long, ils vont se relayer en mi-parcours et surtout en fait les canots ne supportent pas plus de 2 places. Donc du coup à chaque fois ils vont se relayer en mi-parcours pour faire la chose vraiment en équipe.
Allez, le temps est venu pour tous les participants de connaître les règles du jeu, alors on va vous faire un petit récapitulatif. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, il y a 6 équipes, ils sont 4 par équipe et 1 canot par équipe. Les équipes partent chacune leur tour à bord de leur canot. Les deux premiers de l'équipe commencent et au niveau de la stackline qui a été installée à mi-parcours, les deux autres coéquipiers aident les premiers à porter le canot puis prennent le relais pour terminer la course. Il faut donc trouver une stratégie en équipe pour porter le canot à ce moment-là. Nous laissons à présent les participants partir faire un tour de repérage du parcours avec l'organisatrice afin d'identifier l'endroit où le relais s'effectue ainsi que les difficultés éventuelles rencontrées sur le parcours. Sur l'avenue Jean Monastier, en attendant le début de la course, nous rencontrons Julien. Julien qui est le commentateur officiel de cette aventure et qui va nous expliquer sa mission.
Moi, je vais faire les commentaires au micro pour que tout Florac, où qu'il soit, puisse suivre ce moment incroyable.
C'est la première fois que tu es commentateur en canot sur bitume, je pense?
Absolument. Jamais vu de canot sur bitume, jamais vu de canot sur glace non plus. Donc, bien hâte de découvrir tout ça.
Est-ce que tu as déjà fait commentateur tout court?
Laissez-moi penser. Non, je crois pas. Du moins, pas de manière aussi officielle, non.
Bon, d'accord. Est-ce que tu es content quand même d'être là?
Je suis très content, très heureux. Je pense que ça va être une activité très le fun qui permet aussi de sortir le festival de la salle de cinéma. Puis là, on voit, il y a déjà des gens et des enfants qui attendent de voir les canaux. Donc, je pense que ça va être un bel après-midi.
Comme la course tarde un peu à démarrer, nous nous posons la question, mais que gagnent les vainqueurs de cette course de canots sur bitume?
Qu'est-ce qu'on gagne si on gagne? Il y a un prix pour les trois premières équipes sur six. Des prix d'une grande valeur sentimentale qu'on va vous dévoiler plus tard. Mais qui sont là, qui sont prêts, je vous jure.
Et voilà, la première équipe se lance. On aperçoit le premier canot monté sur roulette. C'est le départ de cette folle course de canots sur bitume, ici dans les rues de Florac. Alors, pour retracer rapidement le parcours pour vous qui nous écoutez, le départ se fait de la pompe rue Théophile Roussel, traverse l'avenue Jean Monastier, remonte jusqu'à l'esplanade. Et de là, eh bien, ils vont rejoindre la ruelle qui joint la boucherie et le temple, afin de bifurquer sur la gauche pour à nouveau se retrouver sur l'avenue Jean Monastier, la ligne d'arrivée étant devant la Jeunette Verte. Bien évidemment, vous ne voyez pas ce qui se passe ici, mais sachez, chères auditrices et auditeurs, que ça a l'air d'être tout sauf facile. Et après 7 minutes et des poussières, voici la première équipe qui arrive et qui va franchir la ligne d'arrivée.
Comment s'est passée l'expérience?
C'était formidable. Vraiment, vous avez devant vous les 4 personnes les plus heureuses de Florac. On sait qu'on a fait un très bon temps. On sait qu'il sera difficile à battre et donc nos chances d'arriver en finale sont très grandes, ce qui nous terrifie parce que ça veut dire qu'on va devoir le refaire. Et on n'est pas certain d'avoir l'énergie, mais on le fera, voilà, on le fera avec grand plaisir. Et on invite tout le monde à essayer ce sport extraordinaire. Mais je pense que la glace glisse mieux que le bitume.
Oui, sans aucun doute. Mais c'était le fun quand même.
Ah,
mais
c'était le fun à fond.
C'était vraiment bon, trop cool.
Est-ce que vous vous attendiez à ça?
Absolument pas.
Pas du tout, ouais. Non,
beaucoup plus simple.
Alors moi, je vous dis, on m'a dit hier soir vers 23h, tu veux pas faire ça avec nous? J'ai dit oui, naïvement. Et je m'attendais absolument pas que ça soit difficile. C'est vraiment... ça va pas droit, quoi. Mon coéquipier a été a fait la direction derrière moi, il a été parfait, c'était top.
Un travail d'équipe, donc.
Oui, sans équipe, ça marche pas, hein, parce que ce canoë, il avance qu'à deux.
Voilà, ils ont été fantastiques et courageux. Nous leur souhaitons une bonne récupération, tandis que la deuxième équipe franchit à son tour la ligne d'arrivée. Oh là là, ils semblent être eux aussi bien fatigués. C'est une équipe québécoise cette fois-ci et on leur demande ce qu'ils en pensent.
Désagréable.
Voilà, je crois que nous n'en saurons pas plus pour aujourd'hui. Nous n'avons pas pu assister à la fin de la course. Un grand merci à l'équipe de La Nouvelle Dimension qui a organisé cette animation très fun. On vous donne rendez-vous l'année prochaine au Vue du Québec pour qui sait une nouvelle édition de course de canots sur bitume. C'était Lucie et Marianne pour Radio Bartas sur le 107FM.
Dans la Saint-Marc,
en mer, enfin on entend crier terre. Mais pour remonter Saint-Laurent, ça va prendre du verre. En rentrant dans le port de Québec, mon ancêtre était quasiment sec. Tout juste sur le point de s'égrener tellement il était déshydraté. Mais aujourd'hui c'est grâce à lui et à la chaleur du whisky. Si je vous chante cette chanson, puis que j'aime un peu trop la boisson.
On vient d'écouter La Traversée de l'Atlantique en 1774, un titre des Cowboys Fringants. Et pour continuer dans ces instants des Bartas, nous allons maintenant faire un tour du côté, non pas de chez Swann, mais de chez Corinne, qui a interviewé Asnad au micro de Radio Bartas. Et je n'en dis pas plus, car elle va tout vous expliquer.
Bonjour, chers auditeurs RIS. Vous êtes sur Radio Bartas 107FM, en ce jour radieux de printemps qui nous réchauffe bien. Figurez-vous que j'ai suivi une petite formation à Radio Bartas pour apprendre à faire une interview journalistique. Léo nous a demandé de trouver un thème et une personne à interviewer. J'ai un peu cherché et puis je me suis dit que je connaissais une personne ouverte, dynamique, joyeuse et positive qui avait un parcours atypique à Florac. J'ai donc pensé à Asnad, une étudiante originaire du Bénin venue à Florac pour poursuivre ses études à l'Institut Agro-Florac. Bien sûr, vous connaissez l'Institut Agro-Florac. Sans aucun doute. L'Institut propose donc deux licences professionnelles à Bac plus 2. Une sur la coordination de projets en environnement et développement durable et l'autre sur la gestion agricole des espaces naturels. Et c'est cette licence, GENA, qu'Asnad a décidé de suivre à Florac. Bonjour Asnad.
Bonjour Corinne, comment allez-vous?
Merci bien. Avec cette chaleur là qui arrive, c'est super. Donc merci Asnad de venir à la rencontre de nos auditrices pour parler un peu de ton parcours, des difficultés que tu aurais pu rencontrer, du fait que tu sois étrangère mais aussi étudiante. Tu n'es pas venue ici pour travailler mais pour suivre un cursus universitaire et nous savons qu'être étudiante, étudiant peut être difficile au niveau financier mais pas que. Et là, je souhaiterais aussi que tu nous parles de ce qui t'a marqué pendant ces 6 mois à Florac. Je vais commencer par te demander ce qui, dans ton enfance, ton adolescence au Bénin, t'a orienté vers la production agricole ou l'aménagement de l'espace rural.
Alors, j'espère que vous êtes prêts à rigoler parce que moi, je ne me voyais pas du tout dans l'agriculture quand je grandissais. Donc, il n'y avait rien de particulier qui me marquait. Je grandis, j'ai mon baccalauréat, j'ai l'euphorie. Je me dis, allez, qu'est-ce que je vais faire? Il me faut un métier où je souris, je suis bien habillée, je suis stylée, tout le monde me voit, la star. Et mon grand-père qui était agriculteur, ma mère qui est un peu une agricultrice, mais qui a quelques bêtes à la maison, qui fait son petit truc de subsistance, elle ne me voit pas non plus en agriculture. Et je dis à mon oncle, je veux faire quelque chose, je ne sais pas, aide-moi s'il te plaît. Et il me dit, moi j'ai une petite ferme, viens à Snad, viens faire ton expérience durant une vacance. Si ça te plaît bien, tu restes. Je suis partie là-bas, j'ai très bien mangé et depuis je suis agricultrice.
Qu'à un moment, ben voilà, tu es agricultrice, en fait, tu démarres sur une petite exploitation au Bénin et tu as passé un bac plus 2. Alors, je ne sais pas si au Bénin, le niveau des études est le même, mais à un moment, tu te dis, j'ai envie d'aller en France, je veux aller faire une licence à Florac. Comment t'es venue cette idée de partir de chez toi et d'arriver ici?
Alors, c'est un parcours déjà, j'étais chez moi, et après le début d'un Master 1, je me suis dit, parce que j'ai déjà obtenu une licence professionnelle au Bénin, après le début d'un Master 1, je me suis dit, allez en faire une pause, tu as 19 ans, toute ta vie tu es allé à l'école, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? C'est vrai, c'est cool l'agriculture, c'est cool tes études, mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Alors là, je plaque tout, je vis en France pendant 9 mois pour un service civique. C'est là que je découvre un peu le système français éducatif, la société civile française. Et je me dis, allez, s'il faut revenir quelque part pour étudier la France, pourquoi pas?
Avant de venir à Florac, donc tu étais en France et tu as fait tes 9 mois de service civique dans quelle région?
Ah, j'étais dans la Drôme, j'étais dans des jardins partagés, donc toujours en agriculture. Et ça s'est très bien passé. C'était une très belle expérience.
Et tu as trouvé l'information sur la licence pro gestion des espaces naturels agricoles de Florac par internet, par bouche à oreille. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais aller à Florac en Lozère? Est-ce que tu as cherché des renseignements sur Florac, sur le petit village que c'était, où c'était au niveau géographique, social, économique? Comment, enfin, trouver Florac dans ton parcours?
Ça, c'est une très belle question. Après mon service civique et mon parcours dans le milieu associatif, je disais à tout le monde, je retournerai à l'école peut-être, mais plus en agriculture conventionnelle. Donc, tous mes potes savaient que s'il fallait me proposer une formation, il me fallait le volet environnement ou aménagement des espaces. Donc, c'est du bouche à oreille. Quelqu'un me dit, il y a une formation. La personne ne me parle pas tout de suite de Florac quand même. C'est, il y a une formation qui devrait t'intéresser. La formation m'intéresse. Je check un peu ce qu'il y a à savoir sur la ville et je me dis, allez, je signe, j'y vais. Et c'est comme ça que je suis arrivée là.
En rapport avec ton statut d'étudiante, nous savons très bien qu'en France, en tout cas, la précarité étudiante, c'est un fait, qu'il est difficile de vivre, de trouver à se loger, de manger pour beaucoup d'étudiants. Et tu as dû réfléchir, j'imagine, avant de venir ici, aux problèmes financiers, comment tu allais vivre ici. Quelles ont été donc tes difficultés sociales, culturelles, surtout financières, auxquelles tu as dû faire face?
Alors, difficulté financière, c'est de voir ses ressources s'épuiser quelques mois après son arrivée, parce qu'on vient bien fourni en tout cas, mais avec les réalités du terrain, on dépense beaucoup plus pour des choses, parce que dans mon cas, par exemple, j'ai dû faire mon permis, enfin, commencer les démarches pour faire mon permis sur place. Ça coûte naturellement plus cher que dans mon pays. Donc, il y a de ces inconvénients qui font que, oui, la précarité, ça peut être, on peut très vite le ressentir. Mais dans mon cas, on va dire que je suis venue avec des ressources, que mes parents, à chaque fois qu'ils peuvent, ils me soutiennent financièrement. Et en ce qui concerne mon intégration, je peux dire que ça s'est très, très bien passé. Au niveau social, que ce soit dans la ville, avec les étudiants ou avec les formateurs, formatrices, je me suis sentie accueillie. Je n'ai pas eu de moments, de gros moments de doute, de dépression. J'étais seule au fond du gouffre. Je suis loin de mes parents, dans une ville, un pays étranger, ça se passe mal. Non, il y avait toujours un soutien là. Donc voilà, niveau émotionnel, financier, accompagnement scolaire, je pense que j'étais très bien entourée.
Est-ce que, en tant qu'étudiante étrangère, tu as droit à des APL, des aides? Est-ce que tu as été au Resto du Cœur? Est-ce qu'au niveau alimentaire, tu as pu subvenir à tes besoins? Est-ce qu'au niveau vestimentaire, mobilité, quel type de personnes ou d'associations te sont venues en aide?
Alors, je suis d'abord allée voir Quad 9. Et à Quad 9, on m'a mis en relation avec quelqu'un, la mission locale. Du coup, une assistante de la mission locale qui m'a aidée avec mon permis. Ouais, c'est ça, le permis. Donc, j'ai eu droit à une aide. Je suis allée au Resto du Cœur. Ils sont en cœur là-bas. Déjà, au Resto du Cœur. Ils m'ont aidée. Le Secours Populaire. Voilà, le Secours Populaire. J'ai également fait une demande auprès du Secours Catholique pour tout ce qui était aide. Et voilà, donc on m'a dit Quad 9, mission locale. Ah, la mairie aussi. La mairie qui me donne des bons alimentaires chaque mois.
Est-ce que tu as cherché à avoir un petit boulot pour t'aider au niveau de tes études?
Bien sûr. L'Institut Agro m'a proposé un petit boulot de bibliothécaire et croyez-moi, j'étais comme sur un petit nuage. Et si vous connaissiez Corinne, ma responsable, c'est une pépite.
On va parler d'un autre volet. Merci pour ces précisions aussi, pour aider peut-être les étudiants étrangers qui viendront un jour à Florac. Tu as 406 heures de cours sur 6 mois à Florac. Est-ce que tu as pu prendre du temps pour faire des activités en dehors du campus? Participes-tu à la vie associative locale?
Oui. Je vais manger à l'encrier. J'espère que ça participe à la vie associative locale. Et avec les étudiants, on a une association, Sénat. Et avec cet asso, on a participé au festival de la soupe, on a tenu des stands de criottes, marché de Noël, fête de la laine et ce genre de petits trucs, quoi. Et puisque je sais faire des petites tresses, ça a été pour moi aussi l'occasion d'en faire un peu partout dans la ville, tout ça, voir les petites filles sourire, me faire 2-3 sous. Donc, c'était génial aussi.
ça t'a un peu aidé financièrement quand même. Et est-ce que tu as eu l'occasion de visiter la Lozère ou d'autres régions? Bon, tu avais déjà été dans la Drôme, c'est sûr, mais est-ce que tu as pu avoir du temps, un peu, des vacances qui t'ont permis, ou les week-ends, d'aller voir un peu à l'extérieur?
Oui, bien sûr, j'ai été invitée par des amis, par exemple, le Nouvel An, je l'ai passé en Allemagne. J'ai été à Nîmes pour un festival de flamenco, c'était dansant. Et après, voilà, la mobilité. Durant nos travaux de groupe, de recherche et compagnie, on a fait un peu, à peu près, la Lozère, quoi. Par exemple, pour mon projet tutoré, j'ai rencontré des agriculteurs chouettes, j'ai mené des interviews. C'était enrichissant personnellement comme professionnellement, quoi. Donc oui, je me suis un peu baladée, j'ai bien aimé. Le paysage en Lozère, ça vaut le détour.
Est-ce que tu as un coup de cœur, un endroit à conseiller à nos auditrices?
Coup de cœur, ne ratez pas le festival de la soupe. Et un endroit, c'est pas si loin de chez moi, mais allez vous baigner dans la rivière. C'est hyper beau et agréable.
Et pour conclure, comment vois-tu la suite?
Je suis optimiste, on va dire. J'espère pouvoir continuer un master dans une école où il va faire bon vivre, où les formateurs et les étudiants et étudiantes seront aussi sympas, bienveillants, accueillants. Et finir mon cursus universitaire en beauté en France.
Le master, tu vas le passer où?
Si vous pouvez quelque chose, faites-le. Je veux bien le passer à Montpellier, à l'Institut Agro.
Merci beaucoup, Aznad, d'avoir pris du temps pour partager ton expérience très chaleureuse avec nous. Je te souhaite beaucoup de t'épanouir dans tous tes projets. Et est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditrices?
Oui, merci beaucoup. Je passe un gros coucou à tous les Floracois, Floracoises. Vous m'avez donné l'opportunité de faire mon One Woman Show. J'adore les interviews, donc merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et votre ville, elle est magnifique. La chaleur que vous dégagez au quotidien, elle englobe et enveloppe tous ceux qui viennent de loin et qui se sentent chez eux. Donc bravo, vous avez réussi à faire ça de votre ville. Merci.
Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Il était haut comme trois pommes et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme. On le poussa hors du berceau, lui mettant un baluchon sur le dos. Le bagage vide d'expérience, il posera le pied dans son existence. On n'est pas si tôt arrivé que l'on doit faire face à sa destinée. D'abord, il faut franchir ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves. Là où même sa propre famille risque de le couler par la torpille. Déjà, on saura si sa coque et son bateau traverseront les époques. Ou bien s'il ramera à la dure dans une chaloupe remplie de fissures. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Il se passe un jour obligé dans cette forêt parfois agitée. Là où on peut chercher sa voie, on est souvent perdu au fond de soi. C'est en sortant de cette allée qu'il pourra prendre les routes pavées. Ou se contenter d'une avenue précaire en dehors des sentiers battus. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. ascension ou mille périls. Les victoires sont triomphales, mais où les chutes sont souvent brutales. Seuls quelques-uns se hissent en haut et réussissent à planter leur drapeau. La plupart stoppent à mi-trajet et se résignent bien à la cour du sommet. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Quand viendra l'âge du bilan, l'important sera que tu sois content. Car on fait ce qu'on peut dans la vie, tout dépend de ce qu'on a comme outil. On voudrait tous être aux commandes, mais l'offre est plus petite que la demande. Que l'on soit minus ou géant, il faut être fort pour traverser le temps. Bonne chance.
Musical de ces instants, comme vous pouvez l'entendre, ce sont les Cowboys Fringants qui vont rester avec nous tout au long de l'émission. Et à l'instant, c'était le morceau « Droit devant » que j'adore. D'ailleurs, Isée, cette chanson est pour toi aussi. Tiens, paf, celle-là, elle est placée. « Droit devant », c'est une transition musicale toute trouvée, car on continue, eh bien, « Droit devant » avec une interview réalisée cette fois par Sandrine et qui nous emmène découvrir le Reiki avec Roland.
Bonjour chers auditeurs, auditrices de Radio Bartas. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une pratique ancienne, le Reiki, qui peut vous accompagner pour améliorer votre bien-être. Je reçois aujourd'hui Roland, jeune retraité, jeune floraquois, qui pratique aujourd'hui le Reiki. Nous verrons d'où vient cette médecine alternative, quels sont ses bienfaits, à qui elle s'adresse et comment elle peut se pratiquer. Bonjour Roland.
Bonjour Sandrine.
Alors, je sais que le Reiki, c'est un soin énergétique. Est-ce que tu peux nous donner une définition avec plus de détails ?
Alors, le Reiki, en fait, est une, comme tu l'as dit, une pratique ancienne, mais qui a été remise au goût du jour au 19e siècle par quelqu'un qui s'appelle Mikao Usui et qui l'a remis au goût du jour et qui a permis de le faire reconnaître et diffuser aujourd'hui.
Quels sont les effets bénéfiques en termes de santé ou de bien-être ?
Eh bien, c'est multiple, ça dépend de la personne, pourquoi elle vient te voir. Globalement, ce que je peux faire, c'est plutôt, si ça te va, te donner des exemples. Quelqu'un, par exemple, qui a des troubles du sommeil, le fait d'avoir quelques séances Reiki, ça va lui permettre de se détendre et de retrouver assez rapidement le sommeil, par exemple. Ça marche comme ça.
J'avais une question sur le type de personne qui peuvent recevoir un profil type, est-ce que ça existe ? Qui c'est qui peut recevoir un soin Reiki ?
Tout le monde. Tout le monde peut recevoir un soin Reiki, les enfants, les anciens, les plus jeunes, enfin tout le monde peut recevoir un soin Reiki. Et ce qui est intéressant, et moi c'est ce qui m'a séduit dans cette formule, dans cette technique, et ce qui m'a fait y aller, c'est que comment on peut se l'appliquer à soi-même, déjà.
C'est de l'auto-soin aussi, alors.
Voilà, c'est ça. De l'auto-traitement, on appelle ça. Et...
Est-ce que tu peux nous dire qui est-ce qui pratique ou qui dispense ces soins-là ?
Donc, les soins peuvent être dispensés par n'importe qui a reçu une formation. Donc, en fait, dans la formation, il y a trois étapes, le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et les personnes qui le souhaitent derrière, qui souhaitent derrière enseigner, à ce moment-là, font la maîtrise qui leur permet à leur tour de transmettre et de former des personnes au Reiki.
Alors, tu nous parles de auto-soin tout à l'heure. Oui. Est-ce que, à quel niveau tu peux te faire de l'auto-soin ?
Alors, par exemple, moi, je le pratique quand je me réveille au milieu de la nuit et que j'ai un petit peu du mal à me rendormir. Eh bien, je m'allonge et puis je me pose les mains, puisqu'en fait, le Reiki fonctionne avec une imposition des mains sur des points d'acupuncture à différentes parties du corps. Globalement, on part de la tête, on va jusqu'aux pieds. Et en général, moi, quand j'arrive au niveau des épaules, de la poitrine, ben, ça y est, je dors.
Alors, super transition, parce que c'était ma prochaine question. Ah. Concrètement, comment ça se passe une séance ?
Alors, une séance, pour la personne qui vient pour la première fois, il y a une première partie d'échange pour comprendre la personne, lui demander pourquoi elle vient, qu'est-ce qu'elle attend, et puis faire connaissance. Et ensuite, ça se pratique, la personne est allongée, donc garde ses vêtements, est allongée sur une table type table de massage. Et le praticien, donc en fait, va poser ses mains, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur différents points, en partant de la tête et en descendant jusqu'aux pieds, sur différents points, l'équivalent des points d'acupuncture. Si la personne ne souhaite pas être touchée, également, on peut travailler à distance, juste en laissant les mains à quelques centimètres au-dessus du corps.
Tu parles de points d'acupuncture. Est-ce que ça demande une connaissance du corps ?
Pas particulièrement, enfin après, si quand même, il vaut mieux savoir à peu près où se trouve le foie, où se trouve voilà, le cœur, les organes principaux, quoi, mais non, pas particulièrement de connaissances.
Et justement, comment on se forme à cette pratique ?
Eh ben, tu peux regarder sur Internet, en fait, il y a la liste des praticiens Reiki qui se trouve sur le site, il y a un site Internet. Je ne saurais pas te dire exactement comment c'est, mais enfin, on trouve assez facilement. Et puis dans ta région, tu vas trouver des maîtres Reiki.
Est-ce qu'il y a un âge minimum ou un âge maximum où on ne peut pas faire de soins Reiki, dispenser des soins ?
Pas à ma connaissance. Non, je pense que... Alors, ce qui est important à signaler, c'est que le soin Reiki va, par exemple, quelqu'un qui vient parce qu'elle a une problématique lourde, genre type cancer, faut pas qu'elle s'attende que le Reiki la guérisse de son cancer, et ça va pas substituer à un traitement type chimiothérapie ou des choses comme ça. Par contre, le Reiki va lui permettre d'être plus tranquille, de récupérer plus d'énergie, également, puisque dans l'instant où elle va plus se reposer, être plus détendue, son énergie Reiki, dans Reiki, il y a qui correspond à l'énergie vitale, dans la définition du mot. Donc dans l'instant où son énergie vitale est réactivée, son corps va aussi pouvoir se régénérer, se guérir plus facilement. Donc le Reiki vient en accompagnement d'un traitement qui peut être lourd, quoi, aussi.
Donc il ne remplace pas un traitement, mais... En accompagnement, ça peut potentialiser les effets de la médecine conventionnelle.
C'est ça. Tu as bien compris le truc.
C'est un travail d'équipe.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des risques ou des contre-indications à recevoir un soin Reiki ?
Pas à ma connaissance. Après, le risque, c'est que la personne s'imagine que parce qu'elle a fait du Reiki, elle va être guérie de tout. La personne va devoir s'approprier, en fait, son corps, va devoir ressentir ce qu'elle ressent. On va commencer aussi à peut-être à lui faire prendre conscience de ses émotions. Le travail des émotions, de la connaissance des émotions est très important. Ressentir, surtout dans notre société où on a tendance un petit peu à dire ben non, faut pas s'écouter. Qu'est-ce qu'on dit à un gamin qui pleure ? On lui dit ben non, ben pleure pas. Voilà. Donc ça commence comme ça, hein, depuis le plus jeune âge. Et donc en fait, on va travailler avec la personne et on va l'inviter à aller travailler au niveau de son ressenti. Et on a tendance à dire, nous en tant que praticiens, si tu écoutes ce que ton corps te chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier.
Oui, souvent le corps, c'est le dernier message que tu reçois. Avant, il y en a eu d'autres, mais que tu n'as pas forcément écouté.
Voilà, c'est ça, avec la somatisation.
Si certains auditeurs sont intéressés par cette pratique, mais ont un peu d'appréhension, hein, quel conseil, toi, tu peux leur donner ?
Ben, qu'ils prennent contact avec nous, qu'ils discutent et qu'ils nous fassent part de leurs appréhensions.
Alors, quand tu dis nous, tu penses à qui ?
Ben, ma compagne et moi. Qui sommes tous les deux formés au Reiki. Donc moi jusqu'au niveau 2 et ma compagne, elle est allée jusqu'à la maîtrise, c'est-à-dire qu'elle peut également enseigner.
Est-ce que tu sais si en Lozère, il y a déjà des assos qui font du Reiki ou vous êtes les seuls ?
Ben, je ne saurais pas te dire. En fait, depuis qu'on est là, il n'y a pas très longtemps, on n'a pas vraiment fait de recherche là-dessus. Je ne saurais pas te répondre à cette question.
Oui, c'est vrai, j'ai dit que tu étais un jeune Floracois. Est-ce que tu veux bien partager avec nous des anecdotes que toi, tu as vécues peut-être en séance ou que tu as dispensées?
Ben, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est déjà savoir que quand on commence une séance, on se met en condition de donner quelque chose. Le Reiki, en fait, l'énergie passe à travers moi, à travers mes mains, et je la conduis sur le corps de la personne. Mais personnellement, je ne vais rien donner. Donc derrière une séance, souvent, comme l'énergie aussi passe à travers nous, on se sent mieux. On reçoit aussi ce bienfait. J'allais arriver à l'anecdote, justement. Donc en fait, l'énergie nous fait du bien. Et par exemple, ben, j'ai commencé moi une séance avec un ami. Et donc il s'allonge, il se détend. Moi, je commence donc à me positionner derrière sa tête. Et d'un instant où j'ai posé mes mains, au niveau de sa tête, j'ai reçu mais comme une douche de bien-être, une douche d'amour, une douche de joie, et j'avais une envie de rire, et j'ai vu lui sur son visage, il esquissait un sourire alors qu'il était en mode je vais me détendre, mais il n'a pas pu s'empêcher. Quand on en a parlé, il m'a dit dès que tu as commencé, j'ai eu envie de rire. Et voilà, donc en fait, comme quoi les sensations qu'on peut recevoir, eh bien, on peut se faire confiance, parce que voilà, moi j'avais rien à ce moment-là de particulier qui pouvait me donner envie de rigoler, et c'est juste l'énergie qui est arrivée et puis qui dit ben voilà, on va envoyer de la joie. Voilà.
Alors tu sais, la joie, c'est ma spécialité, donc je suis ravie que tu sois avec moi. Si j'ai bien compris, il y a une préparation pour le praticien en amont.
Oui.
Ensuite, il y a comme une communion, comme s'ils étaient sur la même référence, le praticien et celui qui reçoit.
Oui.
Et puis, il y a un nettoyage du praticien après la séance?
Non, il n'y a pas forcément besoin. Il n'y a même pas besoin de nettoyage, dans la mesure où moi, je ne vais rien donner de moi. Je ne vais pas me sentir fatigué après une séance. Je pense que ça peut arriver dans d'autres types de soins. Mais dans cette situation-là, non, puisqu'en fait, je suis juste un conducteur d'énergie.
Tu as un canal et ça peut faire du bien aussi à celui qui pratique.
Oui, aussi, voilà.
Je rappelle que c'est une médecine alternative, ça fait partie des médecines alternatives, le Reiki, et que évidemment ça peut compléter un traitement, mais que ça ne va pas remplacer la visite chez le médecin. Tu es d'accord avec ça?
Oui, tout à fait.
Je te remercie pour ce partage. Ça donne envie, moi je ne connais pas le Reiki, juste de nom, ça donne vraiment envie d'essayer. Merci d'être venu à Radio Bartas.
Ben, merci d'avoir pensé à moi pour l'interview.
Ordinaire, fut jeune et insouciant, à l'abri des affres des années qui passent, invulnérable, porté par le vent de cette jeunesse qui croyait-il hélas allait se poursuivre éternellement, comme si le temps s'arrêtait se prélasse. Fort de l'enthousiasme de ses 20 ans, il était certain de mener sa barque différemment de celle de ses parents. Moi vous verrez, je vais laisser ma marque, qu'il leur disait un peu arrogant, alors qu'il avait toute la vie devant. Mais les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. L'homme ordinaire met sa montre à l'heure, car soudainement le temps vient à manquer. Si jadis il n'était pas un facteur, ce dernier devient précieux et compté. Et au milieu de cette vaine poursuite, il se dit que la vie passe trop vite. La grosse télé, la petite vision, le voyage dans le sud à la relâche, accepter de vivre comme un mouton, suivre la masse, s'atteler à la tâche. À la remorque du temps qui s'enfuit, l'homme se rend compte qu'il a peu accompli. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.
L'horloge tourne et c'est d'ailleurs le moment de nous quitter puisque cette émission est terminée pour aujourd'hui. Nous remercions les participantes et les participants de près ou de loin qui ont contribué à la réalisation de cette émission et nous vous donnons rendez-vous aux prochains instants des Barthas. D'ici là, portez-vous bien, restez à l'écoute sur radiobarthas.net ou sur le 107FM parce qu'en vrai, on y est plutôt bien. Salut à vous!
L'homme ordinaire se dit qu'il vivote. Il sait bien qu'il est à côté de la plaque. Tous les matins, le jour de la marmotte. Et sa vie qui va droit dans un cul-de-sac. Ah, comme il aimerait en changer le cours. Avoir l'audace de faire demi-tour. C'est le courage de nos décisions qui se veut le moteur de nos actions. C'est lui qui nous pousse à franchir le pont et le fossé de la résignation. Mais qu'on soit immobile ou en mouvement, une chose est sûre, rien n'arrête le temps. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés. Qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas à la réalité. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge